Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir ce qu'est le scapulaire du Carmel. Il est essentiellement un habit, le définissait Saint Jean-Paul II dans sa lettre au Carmel du 25 mars 2001. Quelle est la signification de cet habit? Qu'implique-t-il de le porter? Le scapulaire du Carmel, constitué de carrés de tissu reliés entre eux par des cordons, le scapulaire est un signe extérieur de dévotion mariale et de consécration à la Vierge Marie. Pour découvrir cette dévotion, nous sommes avec Frère Cyril, carme du couvent d'Avon, de passage à Toulouse. Bonjour Frère Cyril.
Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le scapulaire, privilège offert par Notre-Dame du Mont-Carmel, aux éditions du Carmel, et voilà, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de cette belle dévotion. Le scapulaire du Carmel tire son origine d'une promesse faite au XIIIe siècle par la Vierge Marie à Saint Simon Stock, qui était le prieur général des carmélites de l'époque. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, tout à fait. Nous sommes au XIIIe siècle et c'est l'époque des croisades. Les croisés ont libéré la Terre Sainte puisque les nouveaux dirigeants de l'époque les avaient fermés au pèlerinage européen, au pèlerinage des chrétiens qui ne pouvaient plus se recueillir sur le Saint-Sépulcre à Nazareth, à Bethléem et ailleurs. Et donc ça déclenche la première croisade et parmi les croisés, certains soldats vont décider de rester sur place, de vivre une vie de prière sous la protection de la Vierge Marie. Et ils vont s'installer dans un lieu un petit peu à part, un petit peu tranquille, un lieu biblique, qui est le Mont Carmel, un massif montagneux, pas très haut, de 500 mètres de haut, qui longe la Méditerranée dans le nord d'Israël, actuellement à 40 km de la frontière du Liban, et là où eut lieu le sacrifice d'Élie dans le premier livre des Rois. Et ils vont se mettre ici, avec une vue sur la mer, sur un massif très, très fleuri, très verdoyant, et ils vont vraiment vivre une vie de prière, d'ermite, sous la protection de Marie. Ils vont être rejoints par d'autres hommes, des pèlerins venus de France, venus d'Allemagne, venus d'Italie, d'Angleterre et autres, qui eux aussi, partant en pèlerinage, pensant faire un aller-retour, feront juste un aller simple pour rester sur place, prier et prier avec la Vierge Marie.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont les premiers carmes ?
Tout à fait.
Oui.
Ce sont les premiers carmes, tout à fait. Et donc, ils sont là. Malheureusement, l'insécurité devient grandissante et des carmes choisissent de revenir en Terre Sainte puisque les Mamelouks, c'est-à-dire les morts, les musulmans, reprennent progressivement la Terre Sainte et décapitent tous les chrétiens qui s'y trouvent. Et c'est ainsi que, d'après les archives des Dominicains, il y a un certain Simon, qui était alors prieur, c'est-à-dire responsable, sur le Mont Carmel, un certain Simon qui rembarque sur un navire d'un baron anglais, Sir Richard de Grey, et ce baron anglais le ramène sur ses terres, dans le Kent, en Angleterre, dans un petit village qui s'appelle Aylesford. Ce petit village existe toujours, il est situé à 40 km au sud-est de Londres, et c'est là où la Vierge Marie va se manifester pour donner à Saint Simon le scapulaire. On n'est pas très sûr de la date, hein. On sait que ce n'est pas avant 1247, pas après 1252, et on a retenu la date du 16 juillet 1251, traditionnellement. Et c'est ce jour-là où la Vierge Marie se découvre à Saint-Simon Stock. La scène est touchante. Saint-Simon priait régulièrement la Vierge Marie tous les jours de le prendre, lui et les carmes, sous sa protection, parce que tout de même, il venait d'être chassé de Terre Sainte. Et la Vierge lui apparaît très simplement, environnée d'une multitude d'anges. Elle a l'enfant Jésus dans un bras, et dans l'autre bras, elle lui tend un scapulaire. Alors, le scapulaire, c'est le grand pan de tissu que les religieux se mettent par-dessus les épaules. Scapulé, en latin, signifie épaule, très simplement, ça a donné le mot scapulaire. Et elle lui tend donc ce scapulaire en lui disant « Voici un privilège pour toi et ceux du Carmel. Quiconque mourra revêtu de cet habit sera sauvé. » Promesse de salut donnée par la Vierge Marie. Et Saint Simon, qui est un homme quand même anglais du Moyen-Âge du XIIIe siècle, comprend beaucoup plus de choses que nous, on comprend avec nos états d'esprit du XXIe siècle. Puisque Simon entend la Vierge Marie lui dire « voici un privilège ». Mais un privilège, pour un Anglais du XIIIe siècle, c'est quelque chose de très particulier. Un privilège, c'est quand un seigneur prenait sous sa protection un homme.
Ah.
Et donc, la Vierge Marie dit à Saint Simon « je te prends sous ma protection ». Un privilège à l'époque, quand un seigneur prenait quelqu'un sous sa protection, pour bien le montrer à tout le monde, il lui donnait une part de son territoire. Et cet homme devenait vassal, mais vassal au bon sens du terme, c'est-à-dire un homme pris sous la protection d'un grand seigneur. Et Simon comprend que la part d'héritage qu'elle lui propose, c'est une part du ciel. D'ailleurs, elle le dit après, quiconque mourra revêtu de cet habit sera sauvé. Et donc, Simon comprend que Marie veut être accueillie chez lui, comme étant sa protectrice, qui veut lui donner une part au ciel avec lui. Et c'est pas tout. Quand il y avait une cérémonie de privilège à cette époque-là, pour bien signifier que désormais cet homme était mis sous sa protection, sous la protection du Seigneur, le Seigneur lui remettait une petite chose, bien symbolique, sans valeur, mais symbolique, pour montrer l'alliance qui venait de se tisser entre les deux. À l'époque, on remettait une motte de terre, du terrain que l'on donnait aux vassals, ou bien on donnait un bâton tiré des bois, de la forêt, du territoire que l'on donnait. La Vierge Marie choisit de donner à Saint Simon un scapulaire. Et un scapulaire, à l'époque, c'est un scapulaire en laine, qui signifie que, voici, je veux te revêtir de la laine de l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour toi. Je veux te revêtir du salut qui est mon Fils Jésus-Christ. Chaque jour, quand tu porteras le scapulaire sur toi, tu te revêtiras corporellement de notre Seigneur, l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour toi, parce que c'est lui qui te sauve. C'est pas moi, Marie, mais c'est lui qui te sauve, c'est mon Fils.
C'est par l'intercession de Marie, en fait.
C'est par l'intercession de Marie, qui se prend vraiment comme la protectrice, la reine toute-puissante dans le ciel, et qui fait en sorte que Simon et tous celles et ceux qui portent le scapulaire par la suite soient sauvés.
Est-ce que ce Simon Stock a trouvé les conditions favorables pour faire accepter le scapulaire?
Alors, ça a pris du temps. Puisque Saint Simon Stock, on a longtemps cru qu'il avait été un grand dans l'ordre du Carmel, mais en fait, c'était plutôt un petit. Et Saint Simon, en fait, après avoir été prieur en Terre Sainte, a été un carme comme un autre. Et quand il reçoit la visite de la Vierge Marie, bien sûr, il s'empresse de le dire aux frères carmes. Mais les carmes de lui répondre, écoute, on a d'autres chats à fouetter, on revient en Europe, et l'Église en Europe a du mal à nous accepter. Pour des raisons légitimes, puisqu'il y avait déjà beaucoup de dominicains et de franciscains, des ordres mendiants que les populations locales devaient nourrir. Alors si on recevait en plus des carmes qu'il fallait nourrir eux aussi,
ça faisait beaucoup.
Voilà, ça faisait beaucoup pour les populations. Donc grande résistance des évêques, des diocèses en Europe, d'où d'ailleurs la supplication de Saint Simon Stock. Et donc du coup, ça va prendre du temps. Mais progressivement, les carmes vont porter le scapulaire, ça prendra 40 ans quand même. Et ils choisiront même de dormir avec. Et alors, dormir avec le grand pan de tissu qu'on se met par-dessus les épaules, c'est pas très pratique. Et donc, il va se réduire à un format plus réduit, le format du timbre-poste que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est le vrai scapulaire. C'est pas un scapulaire bis, ou un scapulaire de rabais, ou un scapulaire qui a rétréci au lavage. Non, c'est le vrai scapulaire que nous a transmis la Vierge Marie.
Donc, ça veut dire que vous, avec votre habit, vous avez un petit scapulaire sous votre habit que vous gardez jour et nuit, qui a cette forme de timbre-poste. Et puis, vous avez ce scapulaire
Voici. Alors, je suis désolé, les auditeurs ne peuvent pas le voir. Mais le voici, effectivement. Dans les premiers temps, les carmes essaieront plusieurs choses. Avoir un deuxième scapulaire qui descendait jusqu'à la taille seulement et dormir avec, mais ce n'était toujours pas pratique. Alors après, comme Sainte Thérèse d'Avila, on choisit de mettre le scapulaire sur le lit au niveau des pieds, lorsqu'on dort, mais parfois le scapulaire tombe et on préfère l'avoir quand même sur soi. Et donc c'est ainsi que le petit scapulaire que l'on connaît bien aujourd'hui fait son apparition, si je puis dire ainsi, et il se diffuse très rapidement.
Alors je voudrais que vous nous reprécisiez ce geste et ce don de la Vierge Marie. Vous dites qu'elle a finalement donné ce vêtement en peau en laine. En fait, c'est un geste éminemment maternel.
Tout à fait. Saint Simon, quand il voit la Vierge Marie qui souhaite le revêtir, comprend que le geste que cette reine fait, c'est un geste maternel par excellence. Thérèse de Lisieux le dira à sa manière plus tard. Elle est plus mère que reine. Elle est les deux à la fois, mais elle est plus mère que reine. Et le fait d'habiller quelqu'un est un geste éminemment maternel. La première chose, alors moi je ne suis pas un spécialiste en la matière, je ne suis pas un papa, je ne suis pas une maman, mais il me semble bien que la première chose que fait une maman quand elle met au monde son enfant, c'est qu'elle l'enveloppe, elle l'habille au moins de ses bras. D'ailleurs, dans l'Évangile, c'est ce qui se passe. En Saint-Luc, quand la Vierge Marie met au monde Jésus, quelle est la première chose qu'elle fait ?
Elle l'emmaillote.
Voilà, on le lit dans la Bible, dans l'Évangile. Elle mit au monde son fils premier-né, virgule, elle l'emmaillota. Toute maman, quand son enfant naît, va pas dire « Bon, bah, écoutez, je le prendrai quand il ne criera plus, je le prendrai une fois qu'il sera bien lavé, plus tard, je suis fatiguée. » Non, elle s'empresse de le prendre dans ses bras. Est-ce que ce que la Vierge Marie veut faire avec chacun et chacune qui accepte de porter le scapulaire ? Revêtir quelqu'un, c'est vraiment un geste de bienveillance, un geste maternel. Ce geste de bienveillance, on le trouve partout dans la Bible. Dieu lui-même, d'ailleurs, a ce geste maternel de bienveillance de revêtir ses enfants. On le trouve partout dans la Bible, du premier livre jusqu'au dernier.
Oui, on se souvient d'Adam et Ève qui sont vêtus de pagne.
Oui.
Et c'est Dieu qui leur donne ce vêtement.
Tout à fait. Dans le livre de la Genèse, le premier geste de miséricorde, en tout cas c'est ainsi qu'on interprète nos frères aînés dans la foi, les Juifs, c'est après le péché d'Adam et Ève qui se retrouvent dévêtus de la gloire éternelle, de l'amour qui les revêtait comme un habit, ils se retrouvent vulnérables, nus, ils en ont honte. Et donc du coup, dans un geste très pathétique, ils essayent de se rhabiller avec des feuilles, c'est vraiment pathétique. Dieu, qui s'aperçoit de la situation, constate qu'ils ne pourront pas rester dans ce lieu d'innocence, d'amour, où il n'y a pas de péché. Mais avant qu'ils quittent le jardin d'Éden, Dieu les revêt d'une tunique de peau, avant de les laisser partir. Donc Dieu fait là un geste de miséricorde. Et saint Augustin de s'interroger, mais quelle est donc cette tunique de peau ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Parce que, commente saint Augustin, on est au paradis, on est au jardin d'Éden, la mort n'existe pas. Or, pour qu'il y ait une tunique de peau, il faut bien prendre un animal, le tuer et se faire des vêtements avec. Ce n'est pas possible, on est au jardin d'Éden. Et saint Augustin l'a interprété en disant, Dieu fait comprendre à Adam et Ève, oui, vous avez fait une bêtise, oui, vous avez besoin d'être sauvés. Et justement, je vous le montre, en vous habillant d'une tunique de peau qui préfigure déjà celui qui va donner sa peau pour vous, l'agneau de Dieu, qui va donner sa peau pour vous, d'où le fait que le scapulaire le rappelle, puisqu'il est en laine. La laine vient directement du pelage des moutons. Ou bien il est en cachemire, ça vient directement du pelage des chèvres. Et donc vraiment, on a ce geste de miséricorde que Dieu fait. Quand Jésus lui-même nous parle des paraboles, les invités aux noces sont habillés.
C'est vrai.
En tenue des noces. Dans l'Apocalypse, les élus, pareil, sont revêtus de l'habit blanc qu'ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc, le scapulaire nous le rappelle. On est appelé à être sauvé, être revêtu de la grâce du Christ, à revêtir à nouveau cette grâce qu'Adam et Ève ont délaissée par terre misérablement en ayant péché, en ayant été séduit par le serpent. Et Marie, comme la meilleure des mamans, veut nous revêtir du salut qu'est son fils. Elle fait comprendre à Saint-Simon Stock et à nous tous que, de la même manière qu'un petit bébé n'est pas capable de s'habiller par lui-même et qu'il faut une maman pour l'habiller, de la même manière, un homme n'est pas capable de se sauver. Il a besoin d'être sauvé par Jésus-Christ. Et Marie, la mère des mamans, veut nous habiller de son propre fils, comme elle-même a habillé le Verbe de sa propre chair.
Saint Jean-Paul II, dans sa lettre de 2001, souhaite que celui qui revêt le scapulaire fasse l'expérience de la présence douce et maternelle de Marie dans l'engagement quotidien de se revêtir intérieurement de Jésus-Christ et de le manifester de façon vivante en soi pour le bien de l'Église et de toute l'humanité. En fait, il y a une dimension qui est beaucoup plus large qu'une dimension individuelle.
Tout à fait. Le scapulaire n'est pas une pratique para-ecclésiale, j'ai envie de dire. Ce n'est pas une pratique individuelle qui nous mettrait à part. Voilà, moi je porte le scapulaire, j'ai un joker, je serai sauvé, pas besoin d'aller à la messe, pas besoin de pratiquer la charité, pas besoin de pardonner. Non, saint Alphonse de Ligori nous dit bien que ce serait faire injure à la Vierge Marie que de porter son habit, de se conduire comme un païen et de se croire sauvé pour autant. Il n'est pas question de porter le scapulaire, de vivre comme un païen, et puis le jour où je passerai devant Saint-Pierre, lui dire « Hey Joker, t'as vu, j'ai porté le scapulaire, tu me laisses passer. »
Oui, ce n'est pas un blanc-seing.
C'est pas un blanc-seing. Non, c'est au contraire un engagement de ma part de conformer ma vie chrétienne à ma foi, de conformer ma vie à ce que je crois. Je crois en Jésus-Christ. Saint Jacques de me dire dans son épître, dans la Bible, ce n'est pas suffisant. Tu crois ? Les démons aussi croient et ils tremblent. Montre-moi ta foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Et donc, le scapulaire est un engagement à suivre Jésus-Christ comme Marie, notre grande sœur dans la foi, notre sœur aînée, à suivre Jésus et à bénéficier comme Marie des grâces de Jésus-Christ lui-même.
Alors, on va voir dans la deuxième partie de cette émission à quoi les chrétiens s'engagent quand ils revêtent ce scapulaire. Et puis, vous nous expliquerez aussi quel est le rite qui permet d'être revêtu de ce scapulaire. Peut-être sur double mouvement vers la Vierge Marie et vers le Christ, qu'est-ce que vous pourriez ajouter ?
Alors, ce que je peux ajouter, c'est que c'est d'abord eux deux qui viennent à nous et qui nous demandent, qui nous supplient qu'on les accepte dans notre vie. Ma foi, elle n'est pas uniquement spirituelle, mon corps a besoin de participer à ma foi, d'où le pèlerinage, d'où le succès des pèlerinages, ou le fait qu'on aime beaucoup mettre un cierge ou un petit lumignon, parce que mon corps participe à ma foi, je ne suis pas spirituel ou gazeux.
Et puis je prie avec mon corps.
Voilà, je prie avec mon corps, et le fait de me revêtir chaque jour du Christ par les mains de la Vierge Marie, en me revêtant du scapulaire, fait participer mon corps. Et ce qui fait que en portant le scapulaire, j'accepte d'accueillir dans ma vie concrète, quotidienne, le Christ et la Vierge Marie chaque jour, au quotidien. Et je ne réduis pas ma vie à une pratique chrétienne uniquement le jour où je vais à la messe, uniquement pour mes temps de prière, et puis après, je vis ma vie de patachon sans considération des commandements du Christ. Non, je porte le scapulaire sur moi tout le temps, enfin comme un habit, et donc du coup, cela m'engage à vivre chrétiennement tout le temps.
Oui, c'est un rappel comme une marque dans la chair, en fait.
Tout à fait. Tout à fait. Mon corps participe à ma foi. C'est quelque chose qu'on a perdu en Occident, mais qu'on a besoin de retrouver.
De retrouver, oui. Sur cet aspect de l'habit, Jean-Paul II, encore lui, disait que la piété envers Marie doit constituer un habit, c'est-à-dire une orientation permanente de sa propre conduite chrétienne tissée de prière et de vie intérieure à travers la pratique fréquente des sacrements, l'exercice concret des œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. En fait, on a l'impression que finalement porter le scapulaire, c'est pour son propre salut. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension beaucoup plus large ?
Bien sûr. Je ne pourrais pas agir de manière chrétienne sur les autres. Je ne pourrais pas rayonner de la grâce de Dieu sur les autres si moi-même je ne suis pas converti. Et donc, porter le scapulaire contribue à ma foi qui se creuse, qui s'approfondit et qui du coup rayonne sur les autres. Si j'annonce Jésus-Christ sans croire en lui, j'annonce un catéchisme de bas niveau et personne ne s'y trompera. Si j'annonce Jésus-Christ en ayant Jésus-Christ qui habite au sein de mon cœur, là, le courant, la parole de Dieu passera. Alors, ceux à qui je l'annoncerai l'accueilleront ou pas. Mais en tout cas, ils verront que ce n'est pas simplement juste un petit catéchisme, un cours récité qu'on connaît bien sur le bout des doigts. Pas du tout. Le scapulaire est vraiment un encouragement. Et quand la Vierge Marie s'invite dans la vie de quelqu'un, il ne faut pas croire qu'elle aussi ne fait qu'avoir les yeux braqués sur la personne qui porte le scapulaire. Elle est présente dans la famille et donc sur les enfants, sur le conjoint, sur les préoccupations et les projets de la famille elle-même. On parlera, je crois, tout à l'heure des grâces obtenues par le port du scapulaire. Et nous avons des grâces qui sont données sur les proches. Et d'ailleurs, c'est très beau. C'est très, très beau. Donc voilà, c'est vraiment pas une pratique individualiste. Au contraire, c'est une pratique qui me demande de prendre au sérieux ma foi de manière individuelle pour que, de manière individuelle, je participe à la vie ecclésiale et que cette vie rayonne sur les autres. Ma vie chrétienne ne saurait pas se limiter au fait de pratiquer les sacrements, de pratiquer quelques pèlerinages, et puis une fois que je suis
d'avoir
chez moi...
D'avoir une liste à cocher,
voilà,
quoi.
Voilà, et puis une fois que je suis chez moi, ben, y a plus rien. Non. Marie veut être présente dans nos foyers. Et parfois, c'est quelque chose qu'il faut redécouvrir. Est-ce que j'ai chez moi un coin de prière ? Est-ce que j'ai chez moi une statue ou une icône de la Vierge Marie ou du Sacré-Cœur ou autre qui me fait prendre conscience que Jésus est présent dans ma vie ou pas ? Et si oui, est-ce que c'est vraiment pour moi quelque chose d'anecdotique Bon, j'ai une petite image de la Vierge, mais enfin, elle fait 2 cm sur 3, elle est sur le réfrigérateur, et puis voilà. Ou bien c'est au contraire un vrai coin prière aménagé avec, je sais pas moi, une petite icône, la parole de Dieu, enfin la Bible, un petit lumignon, un petit tabouret de prière. Là, voilà, c'est quand même quelque chose de plus engageant et de plus parlant. Et là, vraiment, encore une fois, quand le ciel voit qu'on ouvre la porte dans notre vie concrète et quotidienne, le ciel s'y engouffre.
Frère Cyril, je vous remercie pour toutes ces premières explications. Je vous propose de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons le trio pour clarinette, violoncelle et piano, opus 11 de Beethoven, interprété par l'orchestre de chambre Camerata Pacifica.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Le scapulaire du Carmel, c'est cette dévotion, ce sacramental que nous proposons de découvrir aujourd'hui. Nous sommes avec le frère Cyril Carme du couvent d'Avon, de passage à Toulouse. Le scapulaire peut donc être porté par des laïcs, puisque vous nous disiez au début de cette émission que, effectivement, les frères le portent, mais voilà, ça n'est pas réservé. Par quel rite est-il accordé à une personne qui le demande ?
Alors, il y a un rite d'imposition, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas le scapulaire à soi-même, tout simplement parce qu'on ne se donne pas le salut à soi-même, on le reçoit. Et donc, on reçoit l'imposition du scapulaire par les mains d'un prêtre, d'un ministre ordonné de l'Église catholique, pas besoin qu'il soit carme, hein. Votre prêtre de paroisse, un prêtre dans un sanctuaire, est tout à fait habilité à imposer le scapulaire. Pourquoi un prêtre ? Parce qu'il agit in persona Christi. On retrouve le fait que c'est Jésus-Christ qui nous donne le salut. Et donc, du coup, la cérémonie est très simple. Très familial à l'image de ce qui se passe avec la Vierge Marie. Lors d'une célébration de la liturgie de la parole, par exemple lors de la messe ou lors d'un office, des laudes ou des vêpres, le prêtre invite les personnes qui veulent recevoir le scapulaire à se détacher de l'assemblée et à s'avancer vers lui, ce que font les personnes. Et après avoir béni le scapulaire d'eau bénite, puisque le scapulaire est un sacramental au même titre que l'eau bénite, il impose le scapulaire avec une formule de consécration et il en revêt chacun des scapulaires en imposant sur les épaules des fidèles ce scapulaire. À l'issue de quoi ces personnes-là entrent en alliance avec la Vierge Marie grâce au scapulaire.
Mmh. Oui, c'est vraiment un événement qui marque un avant et un après. Il y a vraiment une...
Tout à fait. Ouais. C'est la raison pour laquelle ces fidèles se détachent de l'assemblée avant de la retrouver après.
Ah oui, c'est ça.
Pour marquer que là, il y a un événement qui n'est pas anodin qui se passe. Et les fidèles, en se détachant de l'assemblée, signifient « Oui, je veux prendre Marie chez moi ». Et ça, cette question-là, tout chrétien est appelé à répondre à cette question. Est-ce que tu veux prendre chez toi Marie ? Alors, le scapulaire est une manière de répondre oui, mais il y en a plusieurs.
Oui, suivre la Vierge Marie, la laisser habiter chez nous sans porter un scapulaire.
Tout à fait. On peut recevoir la Vierge Marie chez soi en portant la médaille de la rue du Bac, ce qui est très très bien, ou bien en priant l'acte de consécration de l'Immaculée de Montfort, ou bien par d'autres pratiques. En tout cas, l'important est d'avoir Marie chez soi, parce que c'est un commandement que Jésus nous a laissé. Je voudrais insister un petit peu dessus. Lorsque Jésus meurt sur la croix, en Jean chapitre 19, versets 25 à 27, au pied de la croix, nous dit l'évangile selon saint Jean, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, etc., voyant le disciple qu'il aimait, et à côté de sa mère, il dit « Femme, voici ton fils ». Et il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Nous sommes tous à la place de ce disciple bien-aimé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle saint Jean, quand il écrit l'évangile, évite de dire que le disciple bien-aimé, c'est lui. Jean.
Ah, c'est pour ça. Parce que chacun se sente concerné.
Voilà, tout à fait. Il insiste pour que chacun soit ce disciple bien-aimé, reposant sur le cœur de Jésus comme lui-même lors de la scène et accueillant chez lui Marie. Puisque quand Jésus dit « Voici ta mère », remarquons que c'est un impératif. Ce n'est pas « Est-ce que tu voudrais bien avoir l'obligeance, si cela te dérangerait pas trop, de prendre chez toi ?» Non, c'est « Voici ta mère, prends-la chez toi ». Cette dernière volonté d'un homme mourant, l'homme Dieu mourant, ce dernier commandement du Christ lui-même s'adresse à chacun des chrétiens. Est-ce que tu prends Marie chez toi ou pas ? Parce qu'on a tous besoin d'avoir Marie chez soi. Pourquoi ? Parce qu'elle est la mère qui a cru jusqu'au bout. Elle est la mère qui nous transmet sa propre foi. C'est facile d'être chrétien, de croire en Jésus-Christ quand tout va bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Et on a tous une connaissance dans la famille, parmi les collègues ou autres, qui nous a raconté qu'ils étaient chrétiens et puis qu'un jour, face à un drame familial ou autre, ils ont perdu la foi.
Oui, c'est vrai.
Et là, on se rend compte que quand on n'a pas Marie, voilà bien souvent ce qui se passe. Dans les évangiles, on croit facilement en Jésus-Christ quand tout va bien. Au début, quand Jésus guérit, fait des miracles, toutes les foules vont à sa suite. C'est marqué clairement dans l'évangile selon Marc. Et puis, quand Jésus commence vraiment à enseigner, et à enseigner beaucoup...
Avec exigence,
notamment lorsqu'il dit que « Je suis le pain de vie, qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle », beaucoup de disciples se disent « Mais cette parole est trop forte, qui peut l'écouter ?» Et ils s'en vont.
Oui, c'est vrai.
Et les foules se rétrécissent progressivement, jusqu'à venir au pied de la croix, en un nombre très limité, on pouvait compter les disciples sur les doigts d'une main. Il y avait Marie, il y avait Jean, il y avait Marie-Madeleine, il y avait Jeanne, femme de Cusa, il y avait Suzanne, Nicodème et Joseph d'Arimathie n'étaient pas très loin. Mais c'est tout, c'est tout. Quand les difficultés, quand le poids de la croix est là, on a besoin d'avoir Marie chez soi. C'est la raison pour laquelle le pape François nous dit, avant de mourir, Jésus sentit qu'il avait une dernière chose à faire, nous donner Marie pour sa propre mère. Prends-la chez toi. En prenant chez Marie et chez nous, Marie nous donne une part de sa propre foi. Voilà ce qui change une vie. Marie, comme dit Max Turian, un théologien de la communauté de Thésée, un théologien protestant.
Qui parle de la Vierge Marie.
Eh oui.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, les protestants parlent de la Vierge Marie. Nous dit que Marie nous donne part de sa propre foi. Et c'est ce que Marie fait. C'est clairement indiqué dans les évangiles. Quand je porte le scapulaire, quand je reçois Marie chez moi, Marie fait avec moi exactement ce qu'elle a fait aux noces de Cana. C'est Jean, chapitre 2, un très beau passage, où il nous est dit qu'il y eut des noces à Cana, la mère de Jésus fut invitée, Jésus aussi, ainsi que ses disciples. Et, alors imaginez la scène, vous avez un banquet avec une piste de danse réservée pour les hommes et les garçons. En face, un autre banquet et une autre piste de danse réservée pour les femmes et les filles. Et au milieu, un petit banquet pour les mariés, le maître de cérémonie, qu'on trouve d'ailleurs dans l'évangile, et puis la famille proche, papa, maman. Et Marie prend l'initiative. Elle remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils n'ont plus de vin. Et vraiment, c'est un drame. Hein. On est en Palestine, au 1er siècle, depuis la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Et les noces, ça dure entre 7 jours et 11 jours, pour laisser le temps à la famille lointaine d'arriver et de prendre part aux noces. Et donc, s'il n'y a plus de vin, bah, l'ambiance va en prendre un coup, et ce sera un déshonneur social à vie pour les nouveaux mariés. Ouais. Donc, il y a un vrai problème. Marie se lève, elle fait ce qu'il ne sait pas, elle va chez les hommes et les garçons, et elle dit à son fils, Jésus, ils n'ont pas de vin. Et là, Jésus est catégorique. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme, mon heure n'est pas encore venue. Prenons la parole de Jésus au sérieux. Jésus n'interviendra pas. Jésus ne veut pas intervenir. Pourquoi ? Ben, il ne s'est pas encore vraiment manifesté comme étant le Seigneur et Sauveur, et il a en face de lui des gens qui sont là pour la fête, mais qui ne croient pas en lui.
C'est son premier miracle, en fait.
Pas encore.
Pas encore.
Pas encore. Mais il va le faire, ce sera effectivement son premier miracle. Eh bien, moi, si j'avais été à la place de la Vierge Marie, je serais reparti tout penaud à ma place en me disant « ça va être la catastrophe, un rideau ». Marie, elle est celle qui croit jusqu'au bout. C'est Élisabeth, sa cousine, qui le dit dans l'évangile selon Saint Luc. « Bienheureuse es-tu, toi qui as cru jusqu'au bout. » Elle est la seule à croire jusqu'au bout. Et nous, on a besoin de cette foi qui croit jusqu'au bout. Et Marie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle interpelle les serviteurs que nous sommes. Et elle leur dit « quoi qu'ils vous disent, faites-le ». Et ensemble, les serviteurs et Marie se tournent vers Jésus. Et là, Jésus voit une chose tout à fait nouvelle. Des hommes croient en lui, grâce à Marie. Et avec Marie. Et alors, il peut intervenir. Et ses serviteurs, remarquons-le, bénéficient d'une foi tellement immense que Marie leur communique que lorsque Jésus leur dit ben, « remplissez d'eau ces jarres, 100 litres quand même chacune, hein, donc 600 litres, et versez-en au maître de cérémonie et aux invités en croyant que ça va être du vin », ils le font.
Oui, ils ont confiance.
Et quelle foi incroyable! Donc, ils vont puiser 100 litres d'eau. Et puis, ils se mettent à servir les gens en se disant « mais c'est bien du vin qui va sortir ». Et effectivement, c'est ce qui se passe, c'est bien du vin qui sort des outres. Voilà ce que Marie fait avec nous. Elle nous communique sa propre foi. Oui. Marie veut faire avec nous, comme elle a fait à Cana, comme elle-même a eu cette foi jusqu'au bout, au pied de la croix. Parce qu'au pied de la croix, hein, je le rappelle, il n'y a qu'une seule personne qui croit, c'est Marie. Hein. Celle qui croit que Jésus, qui est en train de mourir, va ressusciter, parce que l'amour est plus fort que la mort et que la grâce de la vie est plus forte que le péché, c'est Marie. Il n'y a personne d'autre.
Elle a cette espérance.
Oui, mais personne d'autre qu'elle. Parce que les femmes qui ont cette foi quand même, qui l'ont immense, incroyable, qui les ont amenées jusqu'au pied de la croix, Marie-Madeleine, Jeanne, etc., au petit matin de la résurrection, elles vont au tombeau avec des myrrhes et des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Donc pour elles, Jésus était bel et bien le prophète attendu. Était bien celui en qui on pouvait espérer. Mais rideau, c'est fini. On va voir le cadavre, lui rendre les derniers honneurs, et puis après, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Saint Jean, pareil, quand il entend avec Saint Pierre que le cadavre de Jésus-Christ n'est plus là, court au tombeau, et puis il entre dans le tombeau vide, et que nous dit Jean dans son évangile? Il vit,
et il crut.
Il vit qu'il n'avait rien à voir d'ailleurs. Il vit et il crut. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne croyait plus. Mais ça veut dire que sa foi avait été mise à mal, un petit peu comme un feu dont il ne restait plus que les braises, mais plus de flammes. Et là, il y a quelqu'un qui ne va pas au tombeau, c'est Marie. Marie, elle n'y va pas. Elle sait que la mort est vaincue. Elle a été la première bénéficiaire d'ailleurs de la manifestation de Jésus lors de la résurrection. Et c'est cette foi-là que Marie nous communique. Parce que bien souvent dans notre vie, on est fervent, on fait des bonnes choses, on essaie de vivre chrétiennement. Voilà, je prie le petit matin, par exemple, avant d'aller au travail, je suis très fervent, puis je me dis, Seigneur, pour toi, je me laisserai marcher sur les pieds, j'irai évangéliser en Chine, je mourrai martyr au fin fond de l'Amazonie, etc. Vraiment, je suis très fervent. Je sors de chez moi tout content, je prends le bus, je dis bonjour au chauffeur de bus qui me répond avec une grimace, et là, je me dis, mais quel celui-là. Et badaboum.
Et voilà, tout s'écroule.
Toute ma ferveur vient de s'effondrer. Mais c'est dans ces petits actes-là que Marie me soutient avec sa propre foi. Quand je porte le scapulaire, c'est une manière de recevoir Marie chez moi, c'est une manière d'être stimulée dans ma foi par Marie. Et ça, on en a tous besoin.
Et est-ce que ça implique des engagements de porter le scapulaire ?
Bien sûr, effectivement, on n'a pas encore parlé jusqu'à présent. Il y a un engagement. Quand je porte le scapulaire, Marie me demande de prier chaque jour. L'Église a toujours reconnu ce lien entre la Vierge Marie et la prière, l'appel à la prière, lorsqu'un fidèle porte le scapulaire. Ce n'est pas un engagement nouveau. Marie, comme une maman, n'a pas nous imposé une charge nouvelle, mais elle est là simplement pour nous rappeler les commandements de Jésus. Et Jésus nous dit bien, quand les apôtres lui demandent de prier, de les enseigner à prier, Jésus leur dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Jésus insiste « aujourd'hui de ce jour. » Vous prierez chaque jour. Et donc, Marie nous rappelle l'engagement à la prière. Alors, pendant longtemps, l'Église avait demandé à ce que cette prière soit le petit office de la Vierge Marie ou bien le chapelet. Mais depuis 1950, depuis le pape Pie XII, depuis Jean-Paul II l'a rappelé, l'engagement est vraiment l'engagement à la prière. Que ce soit le chapelet, que ce soit une autre manière de prier, peu importe. Marie est là, elle prie avec moi, et quand je prie, c'est là où elle m'obtient les grâces de l'Esprit-Saint, la grâce d'une foi affermie comme elle. Et voilà, pas besoin de m'astreindre au chapelet si ça ne me plaît pas. Pas besoin de m'astreindre au petit office de la Vierge si ça ne me plaît pas. Un exemple historique, la petite Thérèse. Quand elle est petite, quand elle a 11 ans, elle reçoit l'imposition du scapulaire. On est le 8 mai 1884 à Lisieux. Elle fait sa première communion et elle reçoit par là même l'imposition du scapulaire. Et elle signe le registre de la paroisse, qui est aujourd'hui conservé aux archives du Carmel de Lisieux, où elle écrit « Je, sous signé Mademoiselle Thérèse Martin, et bénéficiant ce jour de l'imposition du Saint Scapulaire Notre-Dame du Mont-Carmel, blablabla, et je prends l'engagement de dire la prière du « Souvenez-vous de Saint Bernard » chaque jour. »
Simplement.
Tout simplement. C'est une prière courte, pleine d'audace. Souvenez-vous, miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que ceux qui ont recours à votre protection aient été abandonnés, etc. Et qui colle magnifiquement au tempérament de Thérèse. Et effectivement, selon le témoignage de ses sœurs lors du procès de béatification, elle dira cette petite prière jusqu'à la fin.
Je l'ai dit tous les jours.
De ses jours, tout à fait. On est bien d'accord que la prière du Souvenez-vous de Saint Bernard, ce n'est ni le chapelet, ni qu'elle n'a jamais réussi à dire, Thérèse d'ailleurs, ni le petit office de la Vierge.
Ouais, bon, c'est plutôt rassurant si la petite Thérèse
apparaît. Oui, Marie est une maman, elle ne va pas nous imposer des formalités.
Oui. Alors, on va quand même aborder les grâces qui pleuvent pour ceux qui portent le scapulaire.
Je m'occupe de la confrérie du scapulaire de Paris depuis une petite dizaine d'années, puis maintenant d'une autre à Avon. J'ose dire, à mon étonnement, il y a des grâces qui sont données, dont je reçois des témoignages. Alors, ça peut être des grâces de bonne mort, ça peut être des grâces de guérison, ça peut être des grâces de protection, ça peut être des grâces de conversion. Faites votre choix, j'ai envie de dire. C'est toujours émouvant, c'est toujours très beau. On voit vraiment que Marie est à l'œuvre. Alors, je ne sais pas, parmi ces quatre, laquelle vous choisiriez pour en prendre une. Prenons par exemple une grâce, de conversion.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Une grâce de conversion. C'est un jour où je reçois un petit groupe d'une quinzaine de personnes qui veulent recevoir le scapulaire, mais qui pour cela ont besoin de recevoir une formation, que je leur parle pendant une heure, comme je fais actuellement, très librement, de cette alliance qu'est le scapulaire entre soi-même et la Vierge Marie. Et à la fin de mon intervention, je dis, messieurs, dames, celles et ceux parmi vous qui veulent porter le scapulaire, levez la main. Et là, les uns et les autres lèvent la main, d'autres pas, et j'ai en face de moi Angine et Cédric qui lèvent tous les deux la main. Donc un jeune couple qui venait d'avoir une fille, un jeune couple très sympathique venant des Antilles, habitant Paris. Très bien, et donc j'impose le scapulaire par la suite à chacun, et très bien. 6 mois après, Angeline vient me revoir en me disant « Frère Cyril, faut que je vous dise !» Et, dis-moi, que se passe-t-il ? Vous savez, quand je suis venu avec mon mari Cédric, il y a 6 mois, pour recevoir l'imposition du scapulaire, il s'est mis à le porter aussi. Je lui dis, oui, et alors là, elle me regarde avec des yeux dépités. Mais vous ne comprenez pas ? Vous ne savez pas ? Mais lui, il est venu m'accompagner, il n'était pas chrétien.
Ah.
Il pensait que vous étiez un gourou, il était venu vous casser la gueule. Si ça se passait mal, comme il est assez costaud, là j'ai eu quelques sueurs froides.
Il valait mieux pas le savoir. Hein.
Et donc quand vous avez parlé, puis qu'à la fin, vous avez demandé qui peut porter le scapulaire et qu'il avait la main, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Et bien, de ce jour-là, il porte le scapulaire tous les jours. On prie ensemble chaque matin. Il va avec moi à la messe chaque dimanche et il va participer au pèlerinage des pères de famille, ce qu'il fait d'ailleurs toujours depuis. Bref, il s'est converti. Ouais. Et il y a d'autres exemples également de conversion. Et donc là, on est d'accord, ce n'est pas elle, mais c'est un proche, là, le conjoint, entre autres, ouais, qui s'est converti. Voilà, ou un autre...
Un
dernier exemple, ouais. Alors, je ne sais pas...
Un
dernier témoignage de bonne mort. De bonne mort, mmh. Bah, très bien. Alors là, c'est un témoignage émouvant, parce que autant Jean et Cédric, bon, je les connais depuis, hein, mais je ne les connaissais pas alors, autant là, il s'agit d'une personne que je connaissais bien, et puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que de la femme du patron pour qui je travaillais avant que je n'entre au Carmel. Fabienne. Et donc, nous sommes en février 2013, et en février 2013, Gilles, donc, qui était mon patron, m'appelle au téléphone pour me dire, voilà, Cyril, viens à la maison, ma femme est atteinte d'un cancer en phase terminale, et elle voudrait que tu lui parles de la Vierge et du scapulaire. Bon, ben, très bien, je vais chez lui, à Paris. Je rencontre effectivement Fabienne, nous parlons de la Vierge Marie, du scapulaire, etc. Et elle me dit, voilà, qu'elle veut recevoir le scapulaire. Donc, elle reçoit l'imposition du scapulaire. Très bien, elle se rapproche de la Vierge Marie, donc elle a une belle intimité avec la Vierge Marie à la fin de sa vie. Et puis, deux semaines après, Gilles me rappelle, tout ému, bouleversé, il me dit, voilà, ma femme est partie, c'est fini, elle est décédée, mais il faut que je te raconte comment ça s'est fait. Je dis, bah, très bien, je t'écoute. Et il me dit, ben bah, voilà, elle est tombée inconsciente, alors c'est le stade intermédiaire entre l'inconscience et le coma, je ne sais pas très bien quel est le terme. Bref, elle est hospitalisée. Et l'hôpital, en pleine nuit, m'appelle en me disant, bah voilà, si vous voulez être aux côtés de votre épouse, venez, puisqu'en fait, elle ne passera pas la nuit. Alors, bah, mettez-vous à sa place. Hein,
ouais, il se précipite.
Il prend la voiture, il se précipite, il y va. Et me dit-il, il se précipite donc dans les couloirs, il croise quelqu'un qui est une aide-soignante ou une infirmière, il ne sait pas très bien, et qui lui dit, mais pourquoi avez-vous peur? Elle est en vie désormais. Alors, il ne comprend pas très bien, il ne fait pas très attention sur le coup, il continue à courir, il rentre dans la chambre. Effectivement, Fabienne était là, allongée, avec les tuyaux, etc., complètement inconsciente. Il se tient là, tout simplement, à ses côtés. Et à un moment, elle ouvre les yeux, elle le regarde fixement, elle lui dit, Gilles, je te demande pardon pour tous les torts que j'ai pu avoir envers toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle ferme les yeux et encéphalogramme plat. C'était fini. Elle est partie comme ça. Alors Gilles était complètement bouleversé en me disant cela. Et moi, de me rappeler en Matthieu chapitre 6, Jésus qui nous dit, mais pour toi, quand tu viens à l'autel et que tu présentes ton offrande, qui plus est l'offrande de ta vie quand tu es en train de partir de ce monde, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier. En fait, fais ce que tu peux pour te réconcilier, même si la réconciliation est accueillie ou pas, fais ce que tu peux et puis reviens. Et c'est ce que Fabienne a eu la grâce de faire.
Elle a eu cette démarche de pardon, oui.
Elle a eu cette démarche de pardon, elle a eu cette de demander pardon à son mari. Elle aurait très bien pu exiger un pardon réciproque, parce que je vous assure que l'inverse aurait pu être vrai aussi. Mais bon, et donc elle a eu cette grâce d'une bonne mort.
Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup, frère Cyril.
Merci à vous aussi.
Vous nous avez instruit sur cette belle dévotion du scapulaire. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le scapulaire, privilège offert par Notre-Dame du Mont-Carmel aux éditions du Carmel. Merci.
Merci beaucoup.